Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour Nicolas.
Bon, merci d'être là. Professeur à Neoma Business School. Bonjour Eli Cohen.
Bonjour.
Directeur de la recherche au CNRS, directeur de recherche au CNRS et auteur de Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif chez Odile Jacob. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Hier, bon, le CAC 40 a perdu jusqu'à 2,4%, mais il a terminé sur moins 1,35%. C'est pas la mort qui tue. Le taux à 10 ans a pris plus de 10 points de base à 3,22%. Donc le spread entre l'obligation française et l'obligation allemande a grimpé de 7 points de base pour atteindre 55 points de base. Sachant que depuis 2015, il est très rare d'avoir passé les 50 points de base. Et l'euro a un peu reculé face au dollar. On était à 1,08$. Eli Cohen, c'est quoi comme réaction ? C'est une réaction normale ou inquiétante ?
C'est une réaction assez molle au total. Je veux dire,
oui.
Ça veut dire que les marchés ne prennent pas au sérieux le programme de M. Bardella. Parce que si les marchés prenaient au sérieux les annonces et les promesses faites en matière de retraite, de dépenses publiques, de pouvoir d'achat, etc., il s'inquiéterait davantage de l'effet que la mise en œuvre de ces mesures aurait sur des finances publiques. Et apparemment, la contradiction ne saute pas aux yeux, puisque tout le monde met en cause les déficits et la dette et considère que la priorité essentielle, c'est de remettre un peu d'ordre dans les finances publiques. Mais on voit que à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, on rivalise de propositions de dépenses nouvelles, d'avantages sociaux nouveaux. Non, je trouve que la réaction était très modérée, ce qui veut dire que les marchés ne prennent pas très au sérieux les promesses qui sont faites pour le moment.
Je suis de votre avis que ce n'est pas du tout un tsunami de réactions macro-éco. Après, les marchés réagissaient à l'annonce présidentielle. Ils ont encore un peu de temps pour réagir au premier sondage et à ce que nous réserve.
C'est vrai.
Mais tout le monde se demande si effectivement la suite n'est pas une cohabitation avec le Rassemblement national qui rentrera à Matignon. Nathalie Janson, votre lecture de ces... Alors, on est vraiment sur des réactions immédiates. Faut pas en tirer. C'est pas 24 heures de réaction de marché qui doivent nous permettre de tirer des plans sur la comète à 6 mois.
Ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans cette séquence, c'est que si on la met en regard de ce qui s'est passé la semaine d'avant avec l'orientation négative de S&P, le fait qu'ils aient fait une perspective négative, c'est qu'on voit bien la différence entre un événement qui était relativement anticipé et là, une surprise. Donc là, en tant que prof, je vais pouvoir m'en servir pour expliquer aux élèves. Vous voyez, quand c'est une surprise, effectivement, les marchés bougent parce qu'ils ne le savaient pas.
Ils ne partent pas en vrille.
Exactement, mais ils bougent parce que c'est en fait une incertitude nouvelle, puisqu'elle n'était pas avant, elle n'existait pas, elle existe aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, pour le moment, on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on n'est pas dans la campagne, on n'est pas dans le pourcentage, la probabilité d'accès au pouvoir du RN, même si effectivement...
Elle est grande, objectivement.
Elle est quand même plus grande qu'auparavant, en tout cas. Et puis, il faut le mettre au regard d'un autre résultat. J'avais regardé, pour m'amuser, ce qui s'était passé le jour où Giorgia Meloni a accédé au pouvoir en Italie. Il avait augmenté de 20 points de base le 10 ans. Donc, vous voyez, c'était même en accès, c'est-à-dire que là, elle a vraiment accédé au pouvoir. Finalement, elle n'avait pas non plus explosé les compteurs. Et Dieu sait si l'Italie est une situation fragile. Et on peut peut-être aussi reboucler sur le fait que la Banque Centrale Européenne, il ne faut pas l'oublier, a un nouveau petit programme qui permet d'éviter les tensions entre les dettes.
Rappelez-moi techniquement ce que c'est.
Eh bien, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension sur le... Il s'appelle... c'est contre la dislocation du marché de la dette souveraine. Son nom exact m'échappe tout le temps parce que
il y en a plein d'acronymes à la BCE.
C'est le transmission, c'est le je sais pas quoi transmission, voilà. Ouais. C'est pas très élégant ce que je dis, mais en tout cas c'est ça. Et en fait, la Banque Centrale Européenne va aller acheter le pays qui est en difficulté sur ce moment.
Tout le monde s'y attend.
Donc, ça fait beaucoup d'amortisseurs.
Plus simple, Nathalie, ça veut dire que si un pays est dans la mouise, la BCE fait le job et remplace les marchés financiers mondiaux pour le financer.
Alors normalement, c'est toute la grande question, c'est-à-dire comment ça, c'est à mettre au regard de l'autre programme lorsqu'il y a vraiment un gros problème, qui avait été mis en place par Mario Draghi. Mais il n'empêche que là, on a quand même beaucoup de ceintures et bretelles, ce qui fait que ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi l'Italie n'a pas explosé, pourquoi la France, avec cette annonce-là, n'explose pas non plus.
Évidemment, si on considère que la Banque Centrale Européenne peut tout faire, qu'elle peut être au fonds propre négatif, qu'une banque centrale ne fait pas faillite et qu'elle interviendra quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, sur n'importe quel pays qui pourrait mettre l'euro en risque, dans ces cas-là, alors je comprends que personne ne réagisse. Dans ces cas-là, faisons du pouvoir d'achat, mettons la TVA à zéro dans tous les pays, exonérons les cotisations sociales. Élément à ajouter, Christian Saint-Etienne, par rapport à ces effets, encore une fois, effets immédiats, prenons pas des effets immédiats comme une tendance de long terme.
Alors effectivement, ça peut bouger, mais il y a une différence avec l'Italie, c'est que derrière Meloni, il y avait Draghi. Elle avait clairement dit à la fin de sa campagne qu'elle ne changerait pas le programme tracé par Draghi. Donc là, jusqu'à la dernière nouvelle, il n'y a pas de Draghi derrière Le Pen. Donc c'est un élément à prendre en compte. Mais je pense que ce qui est peut-être encore plus fort, c'est que les marchés financiers se souviennent de ce qui s'est passé en Grèce, où on a eu l'élection de Syriza, et qui avait un programme comme LFI, voire encore plus à gauche. Et en 18 mois, Syriza a pris des mesures Macron plus, avec une baisse du pouvoir d'achat des retraites de 30% sur 18 mois. Il faut que les électeurs se souviennent de ces extrêmes, et je pense que les marchés se souviennent que effectivement ça pourrait purger, il y a peut-être une hypothèse qui est qu'un extrême pourrait purger les rêves délirants des gens qui pensent qu'on peut conduire la politique d'un pays sans mettre en avant le travail, l'investissement, l'innovation.
Mais alors l'idée, c'est qu'on ne peut pas éternellement vendre du rêve pour une fois arriver aux affaires, parce qu'évidemment on a fait campagne en vert et on va gouverner en prose et se dire, maintenant j'ai vendu mon truc, les gens ont acheté l'histoire et je vais leur faire globalement autre chose.
Et si vous prenez l'histoire de la Grèce, après Syriza, les idées extrêmes ont été purgées pour longtemps, puisque c'est un gouvernement de droite extrêmement classique qui gère la Grèce actuellement, et qu'il n'y a pas eu de retour à meilleure fortune pour les retraites ou la protection sociale en Grèce.
Il faut voir ce que...
Donc, c'est sous contrôle aussi.
Donc le risque... Il est possible que le risque qui est intégré par les marchés financiers soit pas celui d'un effondrement, mais soit celui d'une purge.
Ça, en fait, si je comprends pas ce que vous me dites, Christian Saint-Etienne, pourquoi ça ne réagit pas tant que ça? Parce qu'on sait que dans la vraie vie, quand on arrive au pouvoir, on peut pas faire globalement ce qu'on a annoncé avant.
Parce qu'on est dans la vraie
vie. Parce qu'on est dans la vraie vie.
Surtout, on ne sait pas. Surtout, on ne sait pas quel sera le gouvernement. C'est-à-dire là, on est en train de discuter comme si le RN allait avoir une majorité absolue, gouverner.
On n'a pas dit absolue.
Gouverner et appliquer son programme. Mais il y a plein d'autres hypothèses. Une autre hypothèse, c'est qu'il n'y ait qu'une majorité relative. Une autre hypothèse, c'est qu'ils aient besoin de faire des alliances. Et s'ils font des alliances, à ce moment-là, Draghi revient.
Faire des alliances avec LFI aussi.
Il y aura donc un certain nombre d'élus de droite qui se rallieraient à un éventuel gouvernement RN, et dans ce cas-là, effectivement, on verrait revenir la modération à toute vitesse, et à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas exclure la mise en œuvre d'un programme qui soit rigoureusement opposé à celui qui est agité par le RN aujourd'hui, parce que du coup, la priorité aux finances publiques, la priorité au sérieux financier deviendra impérative. Donc, je trouve normal que finalement la réaction des marchés soit ce qu'elle a été, c'est-à-dire attendons de voir ce qui va se passer.
Non, parce que ce qu'il faut redire, c'est que si on faisait l'intégralité des hausses de dépenses, des baisses de recettes, des incertitudes d'économie ou en tout cas de ressorts budgétaires sur la lutte contre la fraude fiscale, l'hostilité quand même à l'Europe sans aller jusqu'au Frexit et l'hostilité au libre-échange, on peut avoir effectivement une dérive de la crédibilité souveraine de la France assez rapide. Je pense que tous les politiques politiques savent que si un pays part en vrille en quelques jours...
Il y a juste un chiffre, à mon avis, si on veut se faire peur, c'est que...
Ah mais il ne s'agit pas de se faire peur, mais...
C'est que l'Institut Montaigne avait simulé les effets de la réforme des retraites prônée par le RN. Le coût, c'était 19,5 milliards d'euros à l'horizon 2030. Comme en 2030, on sera déjà en déficit de 20 milliards, ça veut dire qu'il y aurait bien 40 milliards supplémentaires à mettre simplement
sur les retraites.
Sur les retraites.
Non, mais ça veut dire, en fait, si on se sert peur, c'est un déficit si le RN arrivait au pouvoir et appliquait son programme, éventuellement sur certaines mesures sociales, appuyé par un vote LFI. Dans ce cas-là, on passe rapidement de 5 à 8 à, ou 9 % de déficit.
En quelques mois.
En quelques mois, ouais. Ce qui n'arrivera pas, parce que bien sûr, le système implose. C'est la mécanique qui s'est mise en place au moment de Syriza.
Oui, revenir dans, alors, en fonction des cas et des personnes, revenir entre 60 et 62 ans, c'est l'assurance arithmétique que le truc ne tient pas. Mais je pense que oui, comme vous dites, les marchés réagissent peu parce qu'ils savent que dans la vraie vie, on ne fait pas comme ça. Mm. C'est tout.
Oui,
et on sait que dans la vraie vie, la BCE est là, mais enfin, il ne faut quand même pas non plus tirer sur la ficelle éternellement.
Non, bien sûr. Mais en plus, la différence avec la Grèce, c'est que la Grèce était déjà en crise de la dette et qu'en fait, elle avait la Troïka qui a pris le pouvoir.
Oui. Donc, la Grèce avait menti sur ses déficits.
Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu aller plus loin. C'est parce qu'en fait, la Troïka a dit bon, écoute, où tu prends notre plan.
Oui, mais parce qu'ils étaient à genoux.
Oui, ils étaient à genoux. Nous,
non, mais nous, on aurait la Troïka qui arriverait. Si,
ah bah oui,
si on passe à 8%, bien sûr, la Troïka arrive. Ils ne prennent même pas l'avion, là. TGV,
si on
ça
passe
dure
à 8% de quoi, à 8% sur le 10 ans.
Non, 8% de PIB, de déficit public.
Ah, de déficit. Oui, non, mais là.
Non, pas certaine.
La Troïka, bien sûr, ils mettent 1h30 pour arriver.
Parce qu'il faut voir quand même ce qu'on a imposé à la Grèce pour redresser ses finances publiques, sachant que le PIB n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise.
Mais ils ont fait défaut.
Ils ont fait défaut. On a baissé les pensions de retraite, on a supprimé des fonctionnaires, baissé le salaire minimum, augmenté la TVA. Enfin,
le PIB en Grèce a baissé de 20%.
Oui, oui.
Je veux dire, c'était hallucinant. Là, on passe notre temps à discuter pour savoir si le PIB va augmenter de 0,4 ou de 0,2. Là-bas, il a baissé de 20%.
Enfin, on rentre dans une...
Alors, il y a un autre scénario imaginable, d'ailleurs. Même si le RN ne prend pas le pouvoir, mais a une influence déterminante. Par exemple, les premières projections, même s'ils ne prennent pas le pouvoir, c'est 250 députés RN. Mmh. Donc, ça pèsera malgré tout, sachant que vous en aurez une centaine LFI gauche. Donc, NUPES, là aussi, il y a des incertitudes.
Ah, mais il y en a plein, on ne sait pas ce que la NUPES sera.
Est-ce que la NUPES va se reconstituer sur les bases LFI d'il y a deux ans ou sur une base Glucksmann, on ne sait pas. Mais dans un scénario de ce type, avec une alliance d'une partie de la droite, si le RN arrive au pouvoir, il se peut qu'ils disent, dans un premier temps, on va faire uniquement les réformes immigration frontières, sans changer la politique économique. C'est-à-dire que ça serait un Draghi, mais non avoué. Donc, le nombre de scénarios est tout à fait considérable.
Il y a énormément de scénarios possibles. On ne va pas s'ennuyer dans les 19 jours qui nous séparent du premier tour.
Et à mon avis, dans les 18 mois qui suivent, non plus. Bon. Je crois que vous allez faire des super émissions.
Non, mais vous avez d'autant plus raison que, comme ça vient d'être dit, le débat n'a pas été tranché à gauche, le débat n'a pas été tranché à droite. Et donc, on va avancer un peu les yeux bandés, si vous voulez, entre les propositions maximalistes de Mélenchon et... un éventuel gouvernement par l'ancien patron de la CFDT qui est agité aujourd'hui par Glucksmann, il y a quand même un fossé. Hein. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que par opportunisme électoral, le Parti Socialiste ne s'est pas rallié purement et simplement à Mélenchon.
Il ne veut pas, visiblement.
Voilà. Ils ont donné un coup d'arrêt hier.
On a entendu ça, oui.
Ah non, c'est très important. Oui, non, mon hypothèse à moi aujourd'hui, c'est que non seulement le Parti Socialiste ne se ralliera pas à Mélenchon, mais s'il y a une tendance forte pour sauver les sièges à se rallier à Mélenchon, le Parti Socialiste éclatera.
Oui.
Parce que là, si vous voulez, on est arrivé à un point de rupture après la dérive de LFI sur Gaza et compagnie, et après, enfin, je veux dire,
il y a eu trop de lignes,
il y a eu trop de lignes rouges franchies, sans compter que ça remet en cause la politique étrangère de la France, le soutien à l'Ukraine, etc. Non, c'est fondamental. Il n'y a pas que des enjeux économiques.
Je suis
il y a des enjeux géopolitiques majeurs.
Très fort.
Juste, alors ça, c'est vraiment, c'est pas du BFM Business, mais j'aimerais avoir votre avis sur l'idée que ce serait quand même le pire des cadeaux empoisonnés qu'Emmanuel Macron ferait au Rassemblement National en leur donnant finalement l'exécutif, le vrai opérationnel, pour qu'ils arrivent en 2027 avec cette fois-ci pas des promesses mais un bilan.
Ah mais c'est clairement son pari.
Vous êtes sûr que c'est ça ?
Bah oui, c'est son pari, c'est de les casser.
C'est ce qu'on appelle une stratégie d'apprenti sorcier.
Oui, bien sûr. Oui, enfin c'est quand même
c'est pas un pari, c'est une stratégie d'apprenti sorcier.
Voilà, il fait tapis sur le au casino, sauf que c'est pas avec son pognon, c'est avec celui de la France. Donc c'est un petit problème. Mais sur ce plan, sur le RN, je pense qu'il avait en tête le modèle Mitterrand, c'est-à-dire je laisse venir le RN pour comme Mitterrand avait tué le Parti communiste. Bon, oui. Je ne suis pas certain, premièrement, que Macron ait le niveau d'habileté de Mitterrand. Parce que Mitterrand avait beaucoup de défauts, mais tout le monde reconnaît un niveau d'habileté politique hors norme. Et le deuxième élément, c'est que malgré tout, quand Mitterrand a tenté la stratégie d'étouffement du Parti communiste, il avait un Parti socialiste qui tenait debout.
Oui.
Alors que là, tente d'étouffer le RN, alors qu'il est à poil sur le plan politique. Donc, effectivement.
Oui, c'est là où c'est pas un pari, c'est de l'apprenti sorcier. Oui, c'est quand même vraiment du qui tout double, cette histoire.
Hein. Oui, mais il fait ça pour sa peau, ce qui est quand même. Il joue son pays au casino.
Mais vous dites ça, c'est le dessin de cac à la une de l'opinion aujourd'hui, vous voyez un Macron qui fait tapis, et donc en fait, qui est en caleçon.
Ah oui,
qui est à poil. Voilà, et qui fait tapis, exactement.
Mais même la presse étrangère, vous lisez, tous les. Enfin, que la presse étrangère ou nationale, c'est quand même à peu près tout se converge sur l'analyse, sur la stratégie très risquée d'apprenti sorcier.
Alors sur ce point, d'ailleurs, ça peut être malgré tout, pendant une seconde, intéressant d'imaginer une alternative. Il aurait pu dire, écoutez, il y a des choix importants à faire à l'automne, notamment sur la loi de finances 2025. Et il aurait pu, à mon avis, et ça aurait été, on va voir, on le sait de toute façon dans trois semaines, mais il aurait pu jouer la dissolution sur une motion de censure à l'automne. Et là, les Français...
C'est d'autres scénarios où
voilà, et là, les Français, je pense, auraient compris. Voilà. Parce que là, la critique fondamentale, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de le faire.
Je suis d'accord, mais en termes de message politique, une déculottée à une élection, c'est quelque chose de plus visible par l'opinion que le détail d'un PLF.
Mais
effectivement, c'est l'autre explication qui prédomine, c'est-à-dire que de toute façon, il fallait qu'il le fasse, puisque s'il ne le faisait pas là, il le faisait en fait
lors
du vote du budget.
Il augmentait ses chances à l'automne.
Mais en même temps, il était en contradiction flagrante avec ce qu'il avait dit lui-même, à savoir que c'était des élections européennes et qu'on ne tire pas des conséquences nationales d'élections européennes. Voilà. Donc il s'est contredit lui-même le jour même. Voilà. Donc il n'était pas une approximation près.
Oh, je suis d'accord.
Bon, c'est clair.
On marque une pause. Dans un instant, je vous fais réagir aux premiers éléments du rapport du COR. On attendait ce rapport annuel. Gilles Bercette nous l'annonçait sans nous donner le contenu, bien sûr, la semaine dernière. Président du COR. Bon, c'est dans le rouge dès 2024. C'est gravement dans le rouge en 2030, et encore, gravement dans le rouge, si on va vers 5% de chômage, et si on a un taux de fécondité d'1,8 enfant par femme, ce qui est globalement très optimiste. Bon, et les explications, je vous en dis un mot dans un instant. A tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.